Chapitre 18. En présentant la parabole par laquelle débute ce chapitre, le Seigneur continue dans la même ligne de pensée, comme le montre l'application qu'il en fait aux versets 7 et 8. Lorsque le royaume viendra, cela signifiera le jugement pour les méchants, mais les jours qui précéderont seront marqués par de la tribulation pour les saints. Leur ressource sera la prière. Même un juge inique sera poussé à faire justice à une veuve si elle est suffisamment importune. De même, un saint peut s'attendre continuellement à Dieu avec l'assurance d'être entendu au temps convenable. Il n'y a pas le moindre doute quant à la venue du Fils de l'homme en réponse aux cris de ses élus. Le seul doute qui s'élève se rapporte à la foi. Une foi vivante se trouvera-t-elle parmi les élus? Le Seigneur pose la question. Trouvera-t-il de la foi sur la terre? Mais il n'y répond pas. Il semble que l'on peut en déduire que la foi sera à son déclin, ce qui concorde avec ce que lui-même déclare ailleurs sans détour, « L'amour de plusieurs sera refroidi. » Matthieu 24, verset 12. Si nous avons raison de croire que la fin de la dispensation présente approche, nous ferons bien de prendre cela très à cœur et de nous ranimer quant à la foi et la prière. Ce n'est que si nous prions constamment que nous ne perdrons pas courage. L'homme qui prie se confie en Dieu. Malheureusement, beaucoup se confient en eux-mêmes et en leur propre justice. À ceux-ci s'adresse la parabole suivante. Le pharisien et le publicain sont des hommes types. Le Seigneur considère comme admis que la grâce de Dieu, qui apporte la justification aux hommes, est à leur libre disposition, mais il montre que tout dépend de l'attitude de celui qui en a besoin. Le pharisien représente exactement le fils aîné du chapitre 15, l'homme riche du chapitre 16, le brigand impénitent du chapitre 23. Le publicain représente le plus jeune fils, Lazare, et le brigand qui se repent. Chez le pharisien, tout tourne autour de lui-même, de son caractère, de ses actions. Chez le publicain, la confession de péché et de son besoin de propitiation. Soit apaisé veut dire littéralement soit propice. Comme le verset 13 est lourd de sens. La place que prend le publicain, se tenant loin, indiquant qu'il sait qu'il n'a aucun droit à s'approcher, son attitude, ne levant pas les yeux vers le ciel n'était pas un endroit pour un homme tel que lui. Ses gestes, se frapper la poitrine, confessant ainsi qu'il est un homme qui mérite d'être frappé. Ses paroles, « moi, pécheur » ou « le pécheur » plutôt qu'un pécheur. Le pharisien avait dit « je ne suis pas comme le reste des hommes », frappant les autres hommes plutôt que lui-même. Le publicain frappe celui qui le mérite et, s'humiliant, reçoit la bénédiction. Comme tout cela concorde d'une façon frappante avec le thème particulier de cet évangile. La grâce se trouvait là en abondance dans le Fils de l'homme parfait. Mais à moins que, de notre part, il n'y ait un esprit d'humilité et de repentance, nous passerons à côté de tout ce qu'elle offre. L'incident suivant, que Luc relate brièvement au verset 15 à 17, renforce précisément ce même élément. De simples petits enfants ne comptent pas dans l'estimation du monde, mais c'est de tels que se compose le royaume. Ce n'est pas, comme nous aurions pu le penser, que pour y entrer le petit enfant doive atteindre l'état d'homme adulte, mais il faut que l'adulte revienne à l'état de petit enfant. Le premier cas aurait pu convenir à la loi de Moïse, mais ici, il s'agit de la grâce. L'incident suivant, concernant le jeune homme riche, chef du peuple, insiste également sur ce même point. Le Seigneur venait de parler de recevoir le royaume comme un petit enfant, et le chef du peuple demande alors « Que faut-il que j'aie fait pour hériter de la vie éternelle ?» Il revenait mentalement aux œuvres de la loi. Il ne connaissait pas ce que Paul nous dit en Romains 4, verset 4 « À celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas compté à titre de grâce, mais à titre de chose due. » Abordant la question sur cette base, le Seigneur le renvoie à la loi, au devoir qu'elle lui impose vis-à-vis de son prochain, et comme il assurait qu'il avait gardé ces choses dès sa jeunesse, le Seigneur le sonde plus avant quant à sa relation envers lui-même. « Viens, suis-moi. » Qui est ce moi ? Voilà la question suprême de laquelle tout dépend, aussi bien pour le chef du peuple que pour nous-mêmes. Le chef s'était adressé au Seigneur en disant « Bon maître ». Et cette épithète flatteuse, le Seigneur la refuse s'il ne le reconnaissait pas en même temps comme Dieu. En vérité, il était Dieu, et il était bon. Et il se présente au jeune homme en l'invitant à renoncer à ce qu'il possédait et à le suivre exactement comme Lévi l'avait fait quelque temps auparavant. Même la loi demandait à l'homme d'aimer Dieu de tout son cœur. Le chef aimait-il Dieu de cette façon ? Reconnaissait-il Dieu dans l'humble Jésus ? Hélas, non. Il pouvait bien affirmer qu'il avait gardé les commandements se rapportant à son prochain. Il perd pied complètement lorsque le premier de tous les commandements est en question. À ses yeux, ses richesses avaient en elles-mêmes une plus grande valeur que Jésus. C'est bien difficilement qu'un riche entrera dans le royaume de Dieu, puisqu'il est si difficile de posséder des richesses sans qu'elles absorbent le cœur en excluant Dieu. Pour ceux qui pensaient que les richesses étaient des marques de la faveur de Dieu, tout cela semblait très troublant. Mais la vérité est que le salut est chose impossible à l'homme, néanmoins possible à Dieu. Cela nous ramène au point en question. Le royaume ne peut se mériter, encore moins la vie éternelle. Tout doit être reçu comme don de Dieu. Et si, en recevant le don, d'autres choses doivent être abandonnées, il y a ample compensation, et maintenant, et dans le monde à venir. Ce que le Seigneur dit au verset 29 et 30 a une portée très générale. Dans le temps présent, il y a beaucoup plus pour tous ceux qui ont abandonné les bonnes choses de la terre pour l'amour du royaume. Quelques difficultés que nous ayons à comprendre cela provient de ce que nous n'arrivons pas à apprécier à leur valeur les bénédictions spirituelles contenues dans le beaucoup plus. Paul nous donne une illustration de ces choses. Lisons Philippiens 3, et voyons comme il fait le compte de ces richesses spirituelles déversées dans son sein après qu'il eut fait la perte de toutes choses. Semblable à un chameau dépouillé de tous les haillons qu'il avait portés, il n'était passé par le trou de l'aiguille que pour se trouver comblé de faveur de l'autre côté. Tout cela devait paraître très surprenant à l'esprit juif, mais le fait qui expliquait tout était que le Fils de l'homme n'allait pas prendre le royaume en ce temps-là, mais bien plutôt monter à Jérusalem pour y mourir. Ainsi, de nouveau à ce point-là, Jésus parle de la mort qui était maintenant devant lui. Les prophètes avaient annoncé que ce serait le chemin par lequel il entrerait dans sa gloire, quoique les disciples n'aient pas réussi à le comprendre. Et, alors même que le Seigneur les en instruit à nouveau, ils n'arrivent pas à le saisir. Tel est le pouvoir que les idées préconçues peuvent avoir sur l'esprit. Le Seigneur accomplit maintenant son ultime voyage vers Jérusalem, et il approche de Jéricho pour la dernière fois. Avec foi, l'aveugle arrête le Seigneur au passage. La foule lui avait dit que Jésus de Nazareth passait par là, pourtant il s'adresse aussitôt à lui en l'appelant « fils de David » et il lui demande d'avoir pitié de lui. Le jeune homme riche avait demandé ce qu'il devrait faire alors que le Seigneur venait de parler de recevoir le royaume. Le mendiant aveugle dit qu'il voudrait recevoir lorsque le Seigneur demande ce qu'il faudrait qu'il lui fasse. Il ne résulta rien de la rencontre avec le chef. Un résultat est produit sur le champ, dans le cas du mendiant. Le contraste entre ces deux cas est tout à fait significatif. Le mendiant recouvre la vue, et le Seigneur lui dit « Ta foi t'a guéri ». Cela montre que l'action accomplie est beaucoup plus profonde que le recouvrement de sa vue physique. Le mendiant devient un disciple de Jésus qui montait à Jérusalem et allait vers la croix. Dieu est glorifié, et par le mendiant, et par les témoins de la scène. Un cas également net de bénédiction spirituelle se présente au Seigneur lorsqu'il entre dans Jéricho et la traverse. Si, arrivé là, nous comparons l'évangile de Luc avec Matthieu 20, versets 29 à 34, et Marc 10, versets 46 à 52, une grave contradiction apparaît. Luc place très explicitement la guérison de l'aveugle lorsque Jésus approchait de Jéricho, et les deux autres évangélistes la placent non moins explicitement lorsqu'il quittait Jéricho. Avec nos connaissances limitées, Il semblait impossible de concilier les différents récits sur ce point-là. Mais lors des fouilles faites dans la région de Jéricho, les archéologues ont mis au jour les fondations de deux villes de Jéricho. L'une, la ville primitive, ancienne, l'autre, à quelque distance, la Jéricho romaine. L'aveugle, qui connaissait son affaire pour demander l'aumône, s'était posté entre les deux villes. Luc, qui écrit pour les gens des nations, avait évidemment la Jéricho romaine à l'esprit. Les autres évangélistes, très naturellement, pensent à la ville primitive. Nous mentionnons cela pour montrer comment disparaît très simplement ce qui ressemble à une contradiction insurmontable lorsque nous connaissons les faits dans leur ensemble.